Bonjour à tous, nous sommes sur La Voix Libre, une émission de Graphite sur 94.9 que l'on peut également retrouver sur radio.picassoft.net. Pour rappel, Picassoft, association UTCN qui travaille notamment sur l'Internet et les logiciels libres. Nous enregistrons aujourd'hui notre 11e émission avec Quentin et Romain.
Salut. Salut.
Et donc l'intitulé de l'émission d'aujourd'hui sera « Pourquoi pas Linux ?» Et en introduction, on aura une interview de Yves Saboret du collectif Emmabuntu, interviewé par Quentin, à qui je laisse immédiatement la main.
Salut Yves, bah merci beaucoup d'avoir accepté de participer à l'émission, on est très content de te recevoir. Alors Stéphane l'a mentionné, tu fais partie du collectif Emmabuntu et on a l'impression qu'il y a deux mots en un. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce collectif et nous expliquer le rapport entre les communautés Emmaüs et Linux, parce que j'ai l'impression que c'est deux mots qui forment le nom du collectif.
Bonjour à vous, merci de m'avoir appelé. Et pour répondre à ta question, Quentin, le collectif a commencé à travailler, il y avait à peu près 5 personnes, au sein de la communauté Emmaüs de Neuilly-Plaisance. Au sein de cette communauté, qui recevait pas mal d'ordinateurs usagés, ses camarades ont commencé à installer d'abord... à réinstaller du Windows XP, à clarifier un petit peu les disques qui étaient surchargés. Et puis petit à petit, il s'est avéré que ces opérations de recyclage devenaient difficiles, notamment parce que certains ou pas mal d'ordinateurs arrivaient sans disque dur. Donc ça devenait difficile pour respecter la légalité de Windows de continuer ces opérations. Et donc, ils se sont orientés vers une solution de logiciel libre. Et à l'époque, Ubuntu était, disons, la distribution qui faisait le mieux l'affaire. Et donc, on a collé Emmaüs et Ubuntu pour arriver à cette distribution Emmabuntu.
Ok, bah merci beaucoup. Donc peut-être préciser quelques mots, puisque effectivement on vient de parler de distribution, on vient de parler de Windows, on vient de parler de Linux. Donc pour rappel, oui, Linux c'est un système d'exploitation au même titre que Windows ou que macOS. Mais alors qu'est-ce que Linux a de différent par rapport à macOS et à Windows ? Ça veut dire quoi qu'il est libre ?
Le fait qu'il soit libre, ça veut dire selon les canons... de Richard Stallman, ça veut dire plusieurs choses, mais notamment le fait qu'on puisse avoir le code source sous les yeux, qu'on puisse le modifier, qu'on puisse rétroactivement faire participer tout le monde aux modifications et aux améliorations qu'on a apportées à ce code et le distribuer d'une manière tout à fait libre. Et en général, c'est pas toujours le cas, mais en général, c'est gratuit, ce qui est aussi intéressant pour des communautés comme la nôtre, qui essayons de faire profiter tout le monde de l'accès au numérique.
Ok, merci beaucoup. Et alors, tu as aussi mentionné les distributions en parlant d'Ubuntu. Est-ce que tu peux nous préciser ce qu'est une distribution dans le monde Linux ?
Alors, c'est un peu difficile de parler de ça à travers le micro, mais disons que Linux est la couche la plus basse de l'operating system, du système opératif. Et puis au-dessus, il y a, disons, les interfaces graphiques, par exemple, par rapport à l'utilisateur. Et donc, une distribution comme la nôtre, par exemple, rajoute un certain nombre de choses. Alors, il y a Linux qui est le noyau. Par-dessus, on utilise maintenant, au début, donc, on utilisait Ubuntu. Maintenant, on utilise Debian. Donc, on ajoute Debian à la distribution. Et puis, par-dessus, on ajoute un certain nombre d'utilitaires ou d'applications qui nous paraissent utiles pour les gens qui vont s'en servir, notamment parce qu'on envoie ça en Afrique où il n'y a pas beaucoup d'Internet disponible. Et donc, on met pas mal de choses dans la distribution, c'est-à-dire dans le fichier ISO qui va servir à installer la distribution, le logiciel sur les ordinateurs finaux.
Ok, écoute, merci beaucoup. Donc là, on y reviendra tout au long de cette émission, mais on commence à pressentir toute la diversité qu'il est possible d'avoir avec Linux. Et on reviendra aussi sur les autres avantages qu'offre un système d'exploitation comme celui-là. Mais si toi, tu devais donner quelques bonnes raisons, puisque c'est ce qu'on va essayer de donner pendant cette émission, donc quelques bonnes raisons d'essayer un système d'exploitation basé sur Linux, quelles seraient-elles ?
La première, pour moi, c'est qu'on se dégage un petit peu de l'emprise de Windows ou de Apple, qui sont des logiciels ou des systèmes très propriétaires, où il est difficile, même impossible, de changer quoi que ce soit. Donc il y a une partie de liberté de pouvoir rajouter des choses ou modifier des choses de manière relativement facile. Je mets relativement avec des guillemets, bien sûr. Une absence de virus, par exemple. On est toujours obligé, sous Windows, d'avoir des antivirus qui sont parfois très lourds, alors que sous un système Linux, il peut y avoir effectivement des failles de sécurité, mais en général, elles sont corrigées très rapidement. Et moi, je n'utilise pas d'antivirus particulier sur mes ordinateurs Linux. Et je pense que c'est le cas de la plupart des gens. Et enfin, qu'est-ce que je voulais vous dire ? J'ai perdu le fil de ma...
En même temps, il y a tellement de bonnes raisons d'utiliser Linux que...
Il y a peut-être un élément, Yves, tu vas nous le confirmer, mais le fait que ça puisse être configuré fait aussi qu'on peut le faire tourner sur des machines très vieilles et éventuellement très peu puissantes. Et donc, c'est vraiment une façon de donner vie à du matériel beaucoup plus longtemps. Donc, on pourrait y voir une dimension économique, mais aussi écologique. Est-ce que ça rebondit avec ce que vous faites aussi ?
Absolument, absolument. C'est une des raisons pour lesquelles on a choisi à l'origine Ubuntu et maintenant Debian, c'est que précisément on peut redonner une seconde vie à du matériel qui est relativement vieux et qui sinon finirait à la décharge. Or, c'est quand même un des buts de notre association, c'est de respecter l'environnement et de recycler tant que l'on peut les vieilles machines. À ce sujet... À un moment donné, Ubuntu a décidé de ne plus supporter les ordinateurs 16 bits, pardon, excusez-moi, 32 bits, et de passer directement en 64. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de se tourner vers Debian, qui continue, lui, à supporter des architectures 32 bits. Tout ça parce que effectivement on a des vieux ordinateurs qui ou ne supportent pas encore le 64 bits ou bien n'ont pas assez de RAM disponible pour des gros operating systems.
Eh bien écoute, merci beaucoup Yves pour cette super introduction à Linux. J'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter avec toi peut-être sur une émission plus complète pour parler à la fois d'Emabuntu et puis du rôle de l'informatique libre dans le développement durable.
D'accord.
Et en tout cas, on te souhaite une excellente journée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci, au revoir.
C'est un plaisir. Merci de m'avoir appelé. Au revoir.
Salut,
au revoir.
Yves. Alors, effectivement, le petit curseur, Stéphane à la technique. Merci Stéphane. Du coup, donc on a parlé de beaucoup de choses concernant Linux sur lesquelles on va revenir un peu plus en détail. Peut-être est-ce qu'il est utile de commencer par un petit peu d'histoire, hein, d'où vient ce système d'exploitation un petit peu bizarre qui semble réservé à tous les nerds du monde, alors qu'en fait pas du tout. Eh bien, pour commencer, petit disclaimer, on va volontairement faire des raccourcis et des abus de langage pour pas surcharger l'émission. Donc quand on parlera de Linux comme un système d'exploitation, on voudra dire GNU Linux, on n'évoquera pas la famille de systèmes d'exploitation BSD, etc. Mais tout ça uniquement... pour simplifier le propos. Donc Linux, c'est une épopée qui commence il y a 50 ans, en 1969, quand Ken Thompson, un des programmeurs des laboratoires Bell, décide d'écrire un nouveau système d'exploitation. Donc avec l'appui de quelques collègues, le système Unix finit par voir le jour, et il a été construit en suivant la philosophie du « less is more », c'est-à-dire avec l'idée que la simplicité est préférable à la complexité, et qu'il est possible de construire un système d'exploitation puissant, élégant et facile à utiliser, sans pour autant être complexe, est difficile à faire évoluer, et c'est cette philosophie qui suit Linux jusqu'à nos jours. Alors, Là, on ne parle pas de Linux, on parle d'Unix. Et les sources d'Unix étant publiques à l'époque, les universités et les entreprises développent des outils pour améliorer le système. Il est capable de tourner sur des ordinateurs peu puissants. Et donc, tous les dérivés, qu'ils soient libres ou propriétaires, sont extrêmement nombreux. Et un gigantesque écosystème se crée durant une vingtaine d'années.
Mais du coup, quand... Il y a le son. Mais du coup, Quentin, quel est le rapport avec Linux ?
Eh bien, c'est vrai que pour l'instant, on se demande un petit peu où est-ce que je veux en venir, et moi-même, je me pose la question parfois, mais en 1991, un étudiant finlandais qui s'appelle Linus Torvalds décide de développer un nouveau système d'exploitation, encore une fois agacé par des histoires de licences qui concernaient certains systèmes Unix qui équipaient son université. Et donc, le code source de Linux n'est pas du tout basé sur ceux des OS Unix de l'époque, mais en revanche, ce qui en fait un petit peu l'héritier d'Unix, et c'est pour ça qu'on en parle, tous les principes fondateurs et la philosophie Unix est au cœur de la création de Linux. Donc l'histoire de Linux en elle-même mériterait toute une émission, mais on va s'arrêter là, c'est déjà bien assez. Il faut juste se dire que la mayonnaise prend à ce moment-là, de plus en plus de personnes aident au développement du projet, et aujourd'hui Linux est quasiment omniprésent, mais sauf sur les ordinateurs personnels. Et donc quand je dis quasiment omniprésent, vous vous dites, mais attendez, moi j'ai jamais entendu parler de Linux, qu'est-ce qu'ils essaient de me raconter, ces gens de Picassoft ? Mais Romain, où est-ce qu'on retrouve Linux aujourd'hui ?
Il faut dire qu'on retrouve Linux à peu près partout, donc on le retrouve déjà sur les serveurs, plus de 95% des serveurs tournent sous Linux, y compris chez les entreprises concurrentes, donc chez Windows, tout ça, il y a aussi des serveurs sous Linux. On retrouve aussi Linux sur nos smartphones, nos smartphones sont pour la plupart sous Android, qui est basé lui-même sur Linux. On va aussi le trouver dans les objets connectés, hein, comme les voitures, les serveurs médias, les box internet, les instruments de musique et tout ce qui peut être connecté aujourd'hui, à peu près tout. On va aussi le retrouver dans l'espace, les robots qui sont envoyés dans les missions sur Mars par la NASA, par exemple, ou les fusées de SpaceX. Et on va aussi le retrouver dans les services publics, dans les gouvernements, par exemple, ou dans la gendarmerie, les services de renseignement qui ont besoin d'un système qui ne va pas surveiller un peu toutes nos données, comme Windows, par exemple. Et enfin, on le retrouve aussi chez les particuliers, sur les ordinateurs personnels. Mais il faut savoir que moins de 3% des ordinateurs personnels tournent sous Linux.
Bah attends, il doit bien avoir une bonne raison, puisque si tous les professionnels utilisent Linux, mais que les particuliers l'utilisent absolument pas, c'est que ça doit être vraiment compliqué à utiliser, ou alors c'est vraiment un truc réservé à des gens très techniques. T'essaies un peu de nous arnaquer, Romain, j'ai l'impression.
Alors non, pas du tout. En fait, il y a quelques raisons qui font que Linux n'est pas connu du grand public. Il faut dire déjà qu'on n'entend pas beaucoup parler de Linux. Hein. Je ne sais pas si vous entendez parler de Linux. Et pour ceux qui ont déjà entendu parler de Linux, je suppose que c'est une minorité d'entre vous. Mais est-ce qu'on nous a donné le choix d'utiliser Linux ou non ? La réponse est probablement non. De nos jours, et Stéphane n'est pas là aujourd'hui pour nous rappeler que ça a bien changé depuis sa prime jeunesse.
Et je suis où moi si je suis pas là ? Bien sûr que je suis là.
Stéphane Bonnet n'est pas là.
Ah pardon.
Bien sûr, c'était pas du tout un tacle pour toi Stéphane.
Rien à voir avec le fait que quand tu as préparé l'émission, il était prévu que je ne sois pas là. Donc.
Absolument pas.
Bon, en tout cas, je tiens à dire que ça a beaucoup changé depuis ma jeunesse et je te laisse continuer.
Donc quand on achète un ordinateur, c'est Windows qui est préinstallé dessus. Et puis il y a même pire que ça, c'est que quand on achète l'ordinateur, on paye aussi la licence Windows avec, on ne nous laisse pas du tout le choix.
Et ensuite, on peut même noter qu'au niveau éducatif, rien qu'en France, Microsoft a déboursé des dizaines de millions d'euros. Alors je crois que c'était en 2013, il y avait un chiffre comme 13 millions sur un partenariat pour imposer ces systèmes dans les écoles publiques et, je cite, accélérer la numérisation de l'école. Donc en fait, on peut comprendre que quand des enfants sont habitués à utiliser que des produits qui viennent de chez Microsoft, le pack Office, Microsoft Windows, etc., et qu'on retrouve ces mêmes produits plus tard sur les ordinateurs qu'on achète, eh bien, on a l'impression que c'est le seul écosystème qui existe. Et on entend souvent cette métaphore que ça fonctionne comme pour un dealer, la première dose est gratuite à l'école, et pour la suite, il faudra payer, et notamment les licences et tous les produits Windows. Alors, moi, je connais des enfants qui utilisent Linux depuis qu'ils sont petits parce que leurs parents leur ont montré Linux, et ils s'en sortent très bien, c'est absolument pas sorcier.
Moi, le mien, par contre, il a quelques difficultés sous Windows, faut être honnête. Mais cela dit, c'est un bon exemple, parce que ça prouve bien que ce qui fait quelque part la force de Windows, c'est ce que tu viens de dire, c'est simplement le fait que c'est ce que l'on est habitué à manipuler. Franchement, je pense qu'on ne peut pas considérer aujourd'hui raisonnablement qu'il y ait de différences ergonomiques majeures. Effectivement, je connais des enfants qui l'utilisent, je connais aussi des grands-parents qui l'utilisent sans difficulté. En revanche, hein, donc il y a vraiment cette question de l'habitude. Donc c'est quand même d'abord un problème marketing avant d'être un problème technique. Et cela dit, je voudrais juste rajouter que sur l'aspect technique, s'il n'y a que 3% des utilisateurs qui utilisent Linux sur leur bureau, il faut savoir qu'il y a une grande proportion d'informaticiens dans ces 3%. Alors on aurait pu croire que c'est parce que c'est difficile, mais on vient de vous dire que non. Donc maintenant, on pourrait penser que c'est peut-être parce qu'en tant qu'informaticien, eh bien, eux pensent que c'est un meilleur système.
Donc ok, mais pourquoi en tant que particulier je me mettrais à utiliser Linux ? Parce qu'au pire, Windows, ça marche très bien, non ?
Oui, c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon, d'accord, à ce moment-là, Linux est une alternative viable, mais pourquoi changer mes habitudes ? Bon, bah là, il y a tout un tas de raisons, et même si le logiciel libre vous en touche une sans faire bouger l'autre, il y a vraiment d'autres raisons que le fait que ce soit simplement, entre guillemets, libre. Mais déjà, juste, moi, je me suis curieux, comment vous, parce que j'imagine que vous n'avez pas Windows sur vos ordinateurs, vous êtes retrouvé à tâter pour la première fois un système Linux ?
La première fois que j'ai été sous Linux, c'était pour faire un peu différemment, parce que personne n'utilisait Linux et j'étais un peu curieux, je voulais tester. Après, je suis revenu sous Windows quand même, parce que c'était plus simple au niveau des cours, tout ça, d'utiliser un système Windows, c'est ce que tout le monde utilisait. Et là est sorti Windows 10. C'était un peu raté au départ sur mon ordinateur, avec la mise à niveau gratuite, on était un peu obligé de faire la mise à niveau d'ailleurs. Et du coup, j'ai essayé de remettre Linux dessus, puisqu'il y a plein de choses qui ne fonctionnaient plus, ça ne fonctionnait vraiment pas bien. Et depuis, j'y suis resté. Je trouve ça beaucoup plus simple. Et aussi, c'est gratuit, ça permet de faire durer plus longtemps l'appareil, voilà.
Ok. Toi, Stéphane, il me semble qu'on l'installait directement à partir de CD-ROM.
Non, les CD-ROM n'existaient pas.
Oh, merde.
Non, moi j'ai reçu en 91 un mail de Linus Torvald qui me demandait de tester son... Non, je rigole, pardon. C'était pour faire le malin. Non, j'ai essayé, je pense, la première fois pendant ma thèse, donc ça doit nous ramener en 97-98. Les premières tentatives ont été des échecs, hein. J'ai pas réussi au départ à mener à bien l'installation, à m'en servir, etc. J'ai persévéré un petit peu, et sans m'en souvenir exactement, mais disons que c'est au début des années 2000 où j'ai totalement switché. Ta question était pourquoi, et en fait on a eu la réponse dans l'intervention de Yves au départ, c'était tout simplement pour avoir la liberté, pouvoir jouer avec, faire ce que je voulais, s'ouvrir, voilà, ouvrir des potentiels, c'était vraiment la première raison. On va s'en tenir là et je te laisse prolonger.
Bon, bah effectivement, là déjà on a eu deux bonnes raisons. D'un côté la liberté, et puis de l'autre le fait d'avoir un PC qui ne fonctionne plus sur les versions récentes de Windows. Bon, pour ma part c'est assez anecdotique, puisqu'à l'époque j'étais pas très sensibilisé au logiciel libre, mais simplement je voulais m'intéresser à la sécurité informatique. Alors là effectivement ça fait un petit peu nerd, et il se trouve que sous Linux c'était beaucoup plus pratique. Mais si on revient sur toutes les bonnes raisons de faire la transition vers Linux, d'essayer Linux, et bah déjà c'est gratuit. Quand on sait qu'une licence Windows s'obtient pour au minimum 145 €, c'est une économie non négligeable, je pense que tout le monde s'accordera là-dessus. Et ensuite, une des grandes forces de Linux, eh bien, c'est la diversité. Et par diversité, on entend vraiment qu'il y en a pour tous les goûts, tous les usages et toutes les configurations. Donc il existe des centaines de distributions, hein. Yves avait expliqué un petit peu ce qu'était une distribution, et presque autant d'interfaces graphiques, puisque l'interface graphique est séparée. On peut mettre toutes celles qu'on veut, contrairement à ce que vous connaissez sous Windows ou sous Mac. Donc si vous avez un PC super puissant, eh bien, vous pouvez installer une distribution Linux qui va être très gourmande en ressources et capable de faire tourner des jeux, d'afficher des super effets visuels, etc. Alors qu'au contraire, Linux peut sauver des vieilles bécanes qui sont incapables de faire tourner un système Windows et leur donner une seconde vie, et c'est l'aspect écologique dont on parlait tout à l'heure. Donc ça rejoint complètement effectivement le projet Emabuntu, ça évite le gâchis, et même si on a un PC puissant, on peut quand même faire le choix du minimalisme, l'utilisateur est vraiment en contrôle, il est libre.
Mais... Quentin, je t'interromps parce que moi, là tu as parlé des jeux, donc tu dis aujourd'hui qu'effectivement en 2019, si on a un PC puissant, aussi puissant on va dire qu'un PC pour faire tourner des jeux classiquement sous Windows, il est vraiment possible d'utiliser des jeux ?
Alors oui, après je comptais y revenir un peu vers la fin de l'émission. Tous les jeux ne tournent pas sur Linux, mais beaucoup de jeux aujourd'hui, alors peut-être pas les j'ai pas forcément d'exemple, mais en tout cas tous les jeux non ne tournent pas sous Linux, mais on expliquera pourquoi ce n'est pas de la faute de Linux à la fin.
J'attends alors.
Mais donc, est-ce qu'il faut s'embêter à tout paramétrer, à tout contrôler, à tout choisir ? Parce qu'on vient de dire que l'utilisateur était complètement libre. Des fois, on a juste envie d'installer un truc et que ça marche. Mais oui, il y a des distributions grand public, clé en main, où on retrouve les mêmes réflexes que sur d'autres systèmes d'exploitation. Et la plus connue de ces distributions est Ubuntu, Yves l'a mentionné, mais il y en a plein d'autres. Enfin, un autre avantage énorme, c'est celui dont parlait Stéphane, qui va avec celui de toutes les configurations possibles, c'est celui de la liberté. Utiliser un logiciel libre, c'est comme savoir ce qu'il y a dans votre assiette, vous êtes certain de ce qui tourne sur votre ordinateur. Et ça veut dire en particulier, Romain l'a rappelé, pas d'espionnage. Donc je me permets de le rappeler ici, mais Microsoft Windows récupère énormément d'informations sur votre ordinateur, les applications que vous utilisez, certaines frappes au clavier, ce que vous dites à l'assistant personnel, qui est parfois écouté par de vraies personnes payées par Microsoft. Enfin bon, tout ça, ce sont des scandales dont vous avez peut-être entendu parler. Mais en tout cas, c'est un véritable mouchard. Et sur Linux, rien que tout ça. Aucune donnée n'est envoyée par défaut, sauf si vous y consentez pour certaines distributions, et sauf si vous installez des logiciels qui sont peu respectueux de la vie privée. Mais par défaut, vous êtes en contrôle et vos données restent sur votre PC. Et enfin, contrairement à un Windows ou à un macOS, vous n'êtes plus soumis au bon vouloir des entreprises. Vous vous dégagez de l'emprise de ces entreprises, comme le rappelait Yves. Donc une fonctionnalité vous déplaît, bah vous la désactivez. Si vous n'aimez pas le chemin que prend votre distribution, bah il est facile d'en changer. Si quelque chose manque, n'importe qui peut contribuer au code pour le rajouter. Et si le projet s'arrête, bah n'importe qui peut le reprendre. Donc on ne va pas refaire tout le laïf sur le libre, mais vous voyez l'idée.
Donc là, Quentin, si je t'écoute, Linux c'est le paradis, c'est trop beau, il n'y a aucun inconvénient.
Et ben voilà, là c'est le moment où on va descendre un petit peu certaines choses sur Linux, et c'est aussi pour répondre à la question de Stéphane, donc tout n'est pas parfait, mais je vais profiter, puisque je suis parti dans ma lancée, pour taper un peu plus sur les gens du numérique, parce qu'on entend trop souvent que les logiciels libres, bah, c'est de la merde, ça marche pas, il vaut mieux faire confiance à des entreprises sérieuses qui savent ce qu'elles font. Eh bien, c'est l'heure de mon coup de gueule, parce que c'est ces mêmes entreprises qui empêchent, souvent par flemme et peut-être même par idéologie, que certaines choses fonctionnent sur les distributions Linux. Donc pour donner un exemple, ces dernières années, ça va vraiment de mieux en mieux, surtout avec les distributions grand public, mais il peut arriver que certains périphériques de votre ordinateur ne fonctionnent pas du premier coup en installant une distribution Linux. Ça peut être le pad, vous savez, le pad qui remplace la souris, la carte Wi-Fi, certaines touches spéciales du clavier. Et ça, c'est pas parce que Linux est mal codé, c'est parce que les fabricants ne prennent même pas la peine de considérer Linux. Donc pour faire très simple, c'est vrai que je m'égare un peu, mais je tiens à faire cette parenthèse, c'est souvent un problème de driver, de pilote. Donc un pilote, c'est comme un mode d'emploi qui explique au système d'exploitation comment utiliser le matériel, par exemple le clavier et la souris. Et bah, sans surprise, la plupart des constructeurs de matériel créent les pilotes pour leur matériel pour Windows, mais sans publier le code, de manière à ce que le périphérique fonctionne sans avoir à rien faire sous Windows, mais sous Linux, c'est la croix et la bannière, il faut que des bénévoles aillent essayer de comprendre comment le pilote marche pour essayer de le porter sous Linux, enfin voilà. Et la plupart du temps, si les périphériques ne fonctionnent pas sous Linux, c'est parce que les constructeurs n'ont pas d'intérêt à ce que ces périphériques fonctionnent sous Linux parce que c'est un marché de niche et parce que ça leur coûte du temps et de l'énergie. Donc voilà, c'est juste pour répondre à cette critique qu'on entend parfois, et c'est le même problème avec certains logiciels qui sont commerciaux et propriétaires, qui n'existent que sous Windows et qui sont impossibles à porter sous Linux puisque le code est fermé.
Okay. Mais cela dit, pardon, j'interviens parce que je suis la mémoire ici. une mémoire vive, de moins en moins. C'est juste que, effectivement, là, tu as parlé des drivers. La raison pour laquelle j'ai pas réussi mes premières tentatives de passage sous Linux, fin des années 90, sont pas réussies, était justement à cause de ces drivers. C'est-à-dire que quand on avait terminé une installation, en fait, on avait pas de carte Wi-Fi, pas d'écran, pas de clavier. Bon, bref, du coup, c'était quand même un peu compliqué. Et alors, il était possible de le faire, hein, mais là, il fallait une compétence technique que je n'avais pas. Tout ça aujourd'hui, hein, tu l'as rappelé, Quentin, mais je remets quand même une couche. Ça a vraiment, vraiment quasiment disparu.
Oui.
Sur, je sais pas, 10 installations qu'on fait, on a 9 qui se passent sans aucun souci, et je suis probablement encore en dessous de la vérité. Idem pour les aspects logiciels commerciaux. à cette lointaine époque dont je parle, eh bien, il n'y avait même pas de bon traitement de texte sous Linux. Aujourd'hui, on a avec OpenOffice, LibreOffice, quelque chose de relativement équivalent à la suite Microsoft Office. Tu nous reparleras des jeux tout à l'heure, mais effectivement, il y a aussi une part de la mauvaise réputation de Linux qui est issue de ses débuts. Ouais. On a largement oublié les débuts de Windows, mais parce que ça remonte un peu plus loin, mais on pourrait aussi en rigoler. Mais effectivement, il y a une bonne part de la mauvaise réputation qui remonte au début de Linux, et la grande, grande majorité de tout ça a été très largement améliorée.
Ouais, t'as raison de rappeler qu'effectivement, c'était quelque chose qui était plus vrai auparavant. Aujourd'hui, j'avais juste envie de pousser ce petit coup de gueule parce que j'ai été confronté sur certaines installations à des trucs qui marchent pas et les gens qui se disent ouais, quand même Linux, c'est pas dingue, on m'aurait menti alors que voilà, c'est pas de la faute des développeurs Linux qui sont très compétents.
Et dessus, j'ai une petite anecdote, c'est... La première fois que je suis repassé sous Linux avec un ordinateur, j'avais un driver Wi-Fi qui ne marchait plus sous Windows et je suis repassé sous Linux et d'un coup la carte Wi-Fi remarchait. Donc comme quoi on peut avoir des bonnes surprises des fois.
Extraordinaire, magnifique.
Donc maintenant Quentin, je suis convaincu, j'ai envie d'essayer Linux, mais je ne sais pas comment faire. Est-ce que c'est dur à installer? Est-ce que je risque de perdre mes données? Est-ce que je vais retrouver tous mes logiciels?
Je suis très heureux de t'avoir convaincu, Romain, et je vais t'aider à passer cette étape. Alors, vous vous doutez bien qu'à la radio, on ne va pas vous faire un tutoriel pour installer Linux. Mais alors, pour répondre à ta première question, il y a trois manières, en tout cas, d'essayer Linux. La première, et c'est sans doute la manière la plus simple, c'est d'installer Linux dans ce qu'on appelle une machine virtuelle. Donc, c'est-à-dire que vous allez faire tourner Linux dans votre système d'exploitation actuel, comme s'il s'agissait d'un logiciel comme les autres. Donc c'est une solution qui est assez lente, mais ça se fait très vite, ça n'apporte pas de modification à votre ordinateur, il n'y a aucun risque de perte de données, donc c'est voilà un très bon moyen d'utiliser, d'essayer en tout cas Linux. Ensuite, si vous avez décidé de passer le pas et d'installer vraiment Linux en dur sur votre ordinateur, mais que pour autant vous avez certains logiciels sur Windows dont vous n'avez pas trouvé d'alternative sous Linux, eh bien vous pouvez l'installer en dual boot, c'est-à-dire à côté de Windows. Donc ça peut être utile si de temps en temps vous avez besoin de démarrer sous Windows pour faire quelques opérations, mais que vous voulez tout de même utiliser Linux dans la vie de tous les jours. Donc les deux systèmes cohabitent sur votre ordinateur et vous pouvez choisir lorsque vous démarrez votre ordinateur de démarrer sur l'un comme sur l'autre. Et enfin, la solution la plus radicale, mais peut-être aussi la meilleure à mon goût, c'est, je plaisante, de tout remplacer par Linux. Alors très bien, mais comment fait-on ? Bah, comme je vous l'ai dit... on ne va pas quand même faire un tutoriel à la radio, mais sachez qu'il y a plein d'associations, comme Picassoft d'ailleurs, qui organisent régulièrement ce qu'on appelle des install parties, c'est-à-dire des ateliers où un utilisateur qui connaît bien Linux vous aide à l'installer et à le paramétrer selon vos envies. Et donc le plus simple pour essayer de trouver peut-être une association qui peut vous aider à installer Linux, c'est de vous rendre sur le site agendadulibre.org. C'est un site qui répertorie tous les événements autour des systèmes libres à travers la France, et pas seulement, je crois, mais principalement la France. Et donc sur agendadulibre.org, vous verrez si des associations organisent des install parties près de chez vous. Et donc si vous vous sentez d'attaque pour essayer de le faire vous-même, eh bien, il y a énormément de tutoriels sur Internet et on mettra quelques liens sur le site de l'émission radio.picassoft.net. Et n'hésitez pas non plus à nous envoyer un petit message à picassoft@asso.utc.fr si vous voulez plus de précisions et on sera ravis de vous aider.
Et donc, je déduis du fait que tu n'as pas du tout abordé la question des jeux sur le fait que tu voulais carrément faire une nouvelle émission sur comment faire des jeux libres, c'est ça ?
Oh, en même temps, ça mange pas de pain, parce qu'on a promis tellement d'émissions qu'on n'a jamais fait que je peux bien le faire maintenant. Non, effectivement, j'ai pas abordé la question des jeux, mais c'est la même chose que pour les logiciels, par exemple la suite Adobe ou la suite Office. Il y a certains jeux qui vont pas pouvoir tourner sous Linux. En revanche, Steam fait énormément, donc la plateforme Steam que vous connaissez peut-être, qui centralise beaucoup de l'accès aux jeux aujourd'hui, a fait beaucoup d'efforts, est disponible sur Linux et une bonne partie, en tout cas une partie non négligeable de jeux qu'on peut trouver sur Steam est compatible avec Linux. Et donc moi-même j'ai des jeux Steam sur lesquels je joue sur Linux, comme l'excellent Binding of Isaac.
Donc maintenant, on va passer au quiz. Donc, si vous avez bien écouté l'émission, vous allez pouvoir répondre. Linux est un système d'exploitation qui est fait A, pour les experts en informatique, puisque c'est très compliqué. B, pour les universités et les écoles, c'est un système spécifique pour les pros et l'apprentissage. C, pour n'importe quel utilisateur, on peut tout faire avec Linux et en plus c'est libre et gratuit. Et D, pour ceux qui ne veulent pas payer un système Windows ou Mac parce que c'est beaucoup trop cher.
On va donc avoir la réponse à ce quiz après la musique. Donc aujourd'hui, on va écouter un morceau de piano intitulé « Le spleen » par Emma, extrait de son dernier album « La rupture » publié en 2019, sous licence Art Libre et, une fois n'est pas coutume, déniché sur Twitter.
Eh bien, de retour dans La Voix est libre sur Graphite. C'était Spleen de Emma, merci beaucoup. Oui, tout simplement.
Et bien,
pour finir l'émission, Romain, tu avais annoncé le quiz, je te propose d'y donner la réponse.
Donc, la réponse du quiz, on peut dire que Linux est un système d'exploitation pour n'importe quel utilisateur. On peut pratiquement tout faire sous Linux. Hein. Aujourd'hui, rares sont les logiciels qui n'ont pas d'alternative sous Linux. Et en plus, c'est vrai que c'est un système d'exploitation qui est libre et gratuit, ce qui est un avantage. Et donc, on peut aussi dire que la dernière réponse est un peu la bonne, puisque c'est vrai que quand on achète un ordinateur avec Windows ou Mac, on paye la licence, et Linux permet de faire des économies là-dessus. Voilà.
Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Romain.
Et puisqu'on n'en a pas parlé, que tu abordes ça sans relancer toute une nouvelle émission, il est possible aujourd'hui d'acheter directement des ordinateurs soit sous Linux, soit sans aucun système d'exploitation sur lequel on peut installer son Linux. Donc, il n'est plus obligatoire en 2019 d'acheter une licence Windows en même temps que son ordinateur.
Alors moi, ça m'intéresse, Stéphane. Est-ce que tu sais peut-être où est-ce qu'on pourrait trouver ce genre de choses ?
De mémoire, comme ça, je dois avoir pclinux.fr et pour les autres, on va regarder un petit peu, on va mettre les liens sur notre site.
Ça c'est génial parce qu'en grande surface, c'est vrai qu'on n'est pas prêt à mon avis de trouver des PC sous Linux. Mais,
il doit y avoir Kenux aussi, K-E-Y-N-U-X, mais je suis toujours de mémoire donc je ferai un peu mieux sur le site.
Une mémoire vive extraordinaire. Terminons peut-être par quelques liens. Donc pour rappel, agendadulibre.org pour tous les événements autour du libre près de chez vous et vous pouvez chercher les mots-clés install. Partie. Vous pouvez aussi retrouver des informations sur Emabuntu à Emabuntu, donc E2MABUNTUS.org. Et enfin, sur notre site radio.picassoft.net où on mettra tous les liens dont on a parlé afin de vous permettre d'installer Linux en autonomie.
Eh bien, on se dit au revoir.
À la prochaine.
Salut.
Ciao!